au début, on pensait naïvement, on avait vu tous les travers des managers dans les entreprises qui ont l'air plus traditionnelles, et on s'est dit, bon, bah, y a des boîtes qui disent qu'on peut fonctionner sans management, bon, on va faire sans manager. Et au début, bah, en fait, tu ne te rends pas compte que tu fais quand même du management parce que tu n'es pas beaucoup, mais dès que tu commences à avoir un certain nombre de salariés, bah, si tu n'as pas du management, peu importe le style de management, même s'il est très, très ouvert, très participatif, si tu n'as pas de management, c'est le chaos, ça ne marche pas pour faire grandir une boîte avec les ambitions qu'on avait. Donc là, c'est l'importance de structurer le management et de définir la manière dont on va manager chez nous, plutôt que de se contenter de dire « Ah, on a vu les travers du management traditionnel, on ne veut pas les reproduire bah, », c'est d'aller au-delà de cette question et de se dire « Ok, bah, c'est quoi le management qu'on veut pour nos équipes et pour quels objectifs ?»
Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Pierre, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va ?
Bonjour Elliot, la forme, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis assez content des sujets sur lesquels on va échanger.
Eh ben écoute, merci et merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer l'épisode par te présenter s'il te plaît ?
Oui, moi je m'appelle Pierre Monclos, ça fait 15 ans que un peu plus que je travaille dans le monde de la formation et des ressources humaines, et ça fait 10 ans que je suis expert en digital learning et DRH chez Yono. Donc en gros j'ai deux métiers, l'un de mes métiers c'est de m'occuper des ressources humaines de l'équipe Yono, et l'autre de mes métiers c'est de faire une veille sur toutes les évolutions de la formation, et en fait plus largement des ressources humaines, que ce soit technologique, pédagogique, en termes de pratique, pour les retranscrire dans un maximum de médias. Alors, évidemment, au service de Yono, mais aussi parce que c'est une de mes missions et convictions. Moi, j'ai beaucoup appris des partages des autres, et du coup, je me suis pris de passion pour partager à mon tour ce qui me semblait aider, parfois même nos concurrents, mais je considère que ça fait avancer les RH, et c'est ça le plus important.
Ok. Avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu fais toi, c'est quoi Yono ?
Yono, on est un organisme de formation spécialiste de la formation en ligne. En gros, il y a 10 ans, quand il y avait encore très très peu de formation professionnelle à distance, on s'est mis là-dedans en pensant que la digitalisation de la formation allait se passer assez rapidement. C'est pas passé si rapidement que ça, il a fallu attendre le Covid. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde voit ce qu'est la formation à distance, donc je vais faire court. On propose des vrais parcours de formation qui sont accompagnés pour développer des compétences transverses. Et depuis 2023, notamment pour développer des compétences autour des IA génératives, la manière dont ça change le travail quotidien, mais aussi les compétences et les métiers qu'on exerce. Et on fait ça pour environ 500 entreprises.
Alors, formation à distance, mais est-ce que c'est que des MOOC ? Il n'y a pas de prof ? Comment ça se passe ?
Alors si, c'est accompagné. C'est-à-dire que quand je dis un vrai parcours de formation, pour moi, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire qu'il y a des ressources et des possibilités d'échanger avec les autres apprenants, un accompagnement par des formateurs et de la mise en pratique. La mise en pratique est majoritaire par rapport à la théorie, parce que bah, c'est comme ça qu'on développe des compétences qu'on peut vraiment utiliser quand on en a besoin ensuite en situation de travail.
Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux maintenant me dire qu'est-ce que tu fais en tant que DRH chez Yono ? C'est quoi ton rôle ? Donc la formation, ça, on l'a compris. Est-ce que tu touches au recrutement ? Quel est le scope de tout ce que tu fais ?
Oui, alors on est une boîte d'une quarantaine de salariés, donc il y a un peu tout. J'ai pas une équipe RH, je travaille juste avec une office manager, mais les trois grands pôles, c'est le recrutement dans les périodes où on recrute, le développement, donc développer les compétences, il y a la formation, mais il y a tout plein d'autres manières de développer les compétences, et puis ce qu'on appelle chez nous la culture d'entreprise, qui sont en gros la manière dont on travaille, les conditions de travail, les conditions pour être épanoui chez Yono.
Ok, et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Parce que je vois que ça fait un petit moment déjà.
Ouais, 10 ans. Alors, DRH, pas 10 ans, parce qu'au début, bah, on était dans un appartement, on n'avait pas de salariés, mais ça fait de gérer les RH, ça doit faire 8 ans.
Ok. Donc, tu as vu le développement de la boîte de quelques salariés, ou même de tout début jusqu'à aujourd'hui 40 ?
Ouais, de tout début jusqu'à 40, et avec plein de cycles, où des fois on était plus, des fois on était moins, et c'est ce que je cherchais. j'ai été servi, alors c'est fatigant, mais c'est pour apprendre, il n'y a pas mieux, je trouve.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet là maintenant. Qu'est-ce que tu as vu, grand changement entre quand vous étiez 5, 10, peut-être 15, et quand maintenant vous êtes 40 pour un organisme de formation d'un point de vue RH?
D'un point de vue RH, il y a une chose qui n'a pas été intuitive pour moi et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que dès qu'on dépasse, on va dire 15-20 salariés, il y a plein de choses qui sont évidentes côté RH, mais qui ne sont pas pour les équipes, même quand, comme chez Yono, on fait de la transparence totale. C'est-à-dire on est transparent sur tout, la stratégie, les finances, les RH, les salaires. Et le besoin de communiquer, je pensais que c'était plus réservé aux boîtes plus grosses, qu'on soit un organisme de formation ou une autre entreprise. Et non, en fait, besoin de communiquer régulièrement, de répéter les messages, il vient assez vite, parce que même quand on est une petite équipe, les gens, ils n'ont pas que ça à faire de suivre tout ce que disent les RH. Et c'était une jolie leçon que j'ai prise en cours de route. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le vrai management. Au début, on pensait naïvement, on avait vu tous les travers des managers dans les entreprises qui ont l'air plus traditionnelles. Et on s'est dit, il y a des boîtes qui disent qu'on peut fonctionner sans management, on va faire sans manager. Et au début, en fait, tu ne te rends pas compte que tu fais quand même du management parce que tu n'es pas beaucoup. Mais dès que tu commences à avoir un certain nombre de salariés, si tu n'as pas du management, peu importe le style de management, même s'il est très, très ouvert, très participatif, si tu n'as pas de management, c'est le chaos, ça ne marche pas pour faire grandir une boîte avec les ambitions qu'on avait. Donc là, c'est l'importance de structurer le management et de définir la manière dont on va manager chez nous, plutôt que de se contenter de dire « Ah, on a vu les travers du management traditionnel, on ne veut pas les reproduire », c'est d'aller au-delà de cette question et de se dire « Ok, c'est quoi le management qu'on veut pour nos équipes et pour quels objectifs ?» Et ça, pareil, un apprentissage en cours de route, parce qu'à un moment, ça tenait plus sans manager.
Et pourquoi ça tenait plus ?
Ça tenait plus parce qu'on n'aide pas à progresser les gens, puisqu'en fait, ils n'ont pas quelqu'un qui va être dédié à voir ce qu'ils font de bien pour leur dire « ça, tu le fais bien, continue, voir, tu peux t'améliorer », et « ça, tu le fais pas bien ». Du coup, d'avoir des vrais feedbacks et un vrai suivi, c'est pas possible. Nous, on n'a pas trouvé la recette pour le faire sans manager. Il y en a qui le font en disant « on ne prend pas des managers, on prend des sortes de coachs internes ». Je pense que ça peut avoir le même rôle, mais nous, on avait besoin des bases du management pour suivre et faire progresser les gens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est leur donner de la reconnaissance. Pas juste pour qu'ils capitalisent sur ce qu'ils font bien, mais pour qu'ils se sentent reconnus dans l'entreprise de manière formelle, informelle, à l'oral, à l'écrit, avant qu'on parle de RH, donc avant le salaire, avant tous ces sujets. Et ensuite, pour gérer la complexité, on est une start-up, on a fait des levées de fonds, on a eu des hauts et des bas. Impossible de prédire, encore même en 2024, ce que sera exactement l'entreprise à horizon 6 mois. Pour gérer cette complexité, ça génère beaucoup de questions au niveau des métiers et on peut pas tout traiter au niveau entreprise, même s'il y a des sessions avec toute l'équipe. Ouais. Les managers sont les mieux placés puisque c'est eux qui ont la vision et qui vont répondre ou assumer ne pas savoir répondre à telle ou telle question.
Oui, en tant que dirigeant, tu vas pouvoir communiquer à quelques personnes, mais pas 40 à la fois efficacement pour répondre à toutes les problématiques, j'imagine, c'est sûr.
Ouais, c'est ça.
Ok. Et par rapport à un organisme de formation, parce que je sais que tu échanges en tout cas, tu es dans des boucles avec des entreprises aussi, et tu as écrit carrément un livre sur RH, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui change pour un organisme de formation? Parce que, est-ce que d'ailleurs tu traitais aussi avec les intervenants ou pas?
Qu'est-ce qui change quand on change de taille comme ça, hein? C'est ça ta question?
Quand on change de taille, mais aussi quelle est la différence entre un organisme de formation et une entreprise peut-être plus, dans un autre secteur Est-ce que ça change rien? Est-ce que tu as vu des spécificités par rapport au monde de la formation en DRH?
Ouais, alors il y en a une, c'est la relation. Alors tu l'as en partie dit dans ta question, c'est la relation qu'on a avec les formateurs. Puisque, comme beaucoup d'organismes de formation, on a fait le choix d'avoir des formateurs qui sont des indépendants ou des freelances. Et comme le dit souvent Yannick, notre CEO, en fait, les formateurs, c'est une extension de l'équipe. Et c'est pas parce qu'ils sont pas salariés qu'on ne doit pas les considérer comme faisant partie de l'équipe. Et alors, on n'a jamais réussi à se dire on va les gérer exactement comme des salariés en termes de formation qu'on leur propose, la manière dont on les recrute. On n'est jamais allé aussi loin que pour les salariés, mais ça nous a donné un cap de dire on va tendre vers ça parce que tu gères les personnes qui sont en face de tes apprenants, de tes clients, qui ont aussi besoin de tout ce qu'on a cité juste avant, de reconnaissance, de savoir comment ils peuvent progresser. Sinon, en fait, ils sont seuls dans leur coin et les feedbacks, ils les ont des apprenants. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons feedbacks, mais il faut aussi qu'ils aient des feedbacks qui vont dans la direction de notre vision pédagogique, de ce qu'on sait qu'on peut bien faire à l'échelle. Et donc ça, c'est une spécificité côté organisme de formation qui est un apprentissage plus global parce que les entreprises 2024, globalement, elles travaillent avec beaucoup de freelance. Je n'ai pas les chiffres, mais chaque année, déjà ça avait explosé il y a quelques années, et chaque année on augmente le nombre de freelance qui sont présents en France et le nombre de freelance avec lesquels travaillent les entreprises. Et ça, c'est un peu un angle mort des services ressources humaines parce qu'en plus, si on va trop loin, ils peuvent être qualifiés en CDI, donc même d'un point de vue droit du travail, ça peut faire peur. Moi, je pense qu'à part le contrôle des horaires, évidemment, d'un point de vue juridique, il faut faire attention à ce qu'on fait, tout le reste, le jour où il y a un indépendant qui se retourne contre une entreprise parce qu'elle lui a proposé des formations et un cadre trop précis, je pense que le risque, il en vaut la chandelle. Déjà, il a très peu de chances de se réaliser, mais ça aura créé tellement de valeur qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que sinon, on ne fait pas progresser les gens avec qui on bosse de manière régulière. Et soit on les perd, parce qu'il y en a d'autres qui vont le faire, soit on continue avec eux, et on ne crée pas plus de valeur au fur et à mesure des années, alors qu'on le fait avec les salariés. Il y a plein de choses qui sont totalement transposables. Il n'y a rien à réinventer, on a juste à faire la même chose. Donc ça, c'est un des changements. Et les autres spécificités des organismes de formation par rapport aux entreprises un peu plus traditionnelles, je pense que c'est la dépendance qu'on se crée au monde administratif et juridique de la formation. Il y a tellement de choses que je trouve encore archaïques aujourd'hui, mais qui conditionnent nos habitudes, nos prises de décision, les initiatives des équipes, où on a peur de sortir de Calliope, on a peur d'avoir des choses qui font que nos formations elles seront plus éligibles au CPF. Et si souvent il y a une volonté que ça soit pour créer plus de valeur, dans les faits, peut-être qu'à certains endroits ça crée plus de valeur, mais d'un point de vue pédagogique, c'est une catastrophe. Si on regarde, et je le dis, je l'assume publiquement, parce que je l'ai dit dans ce podcast, mais les audits Calliope, les référentiels de compétences et la manière dont on rend des formations éligibles au CPF, il y a le RNCP ou le répertoire spécifique, c'est beaucoup de règles qui sont rarement proches de ce qui fait qu'une formation est la plus efficace d'un point de vue pédagogique. Est-ce qu'il y a vraiment de la mise en pratique qui est transposable en situation de travail et est-ce qu'on va vraiment mesurer cet impact-là ou non ? Dans les faits, non, il y a tellement d'autres choses à faire que ça détourne de l'impact et de l'efficacité pédagogique de mon point de vue. Il y a quelques exceptions, je ne dis pas que tout est à jeter. Et donc ça crée une culture un peu de process au sens administratif, pas au sens on va aider à mieux faire son travail, mais il faut être sûr qu'on respecte telle ou telle norme dont au final elle nous détourne peut-être un petit peu de notre vrai métier qui est la montée en compétences des apprenants qui suivent nos formations. Et ça, c'est pas facile. Alors ça se gère, c'est une culture de boîte à mettre en place, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de boîtes qui font pas vraiment de la formation, mais qui aident les gens à progresser, qui vont beaucoup plus vite, ou que dans le monde de la formation, il y a des entrepreneurs qui viennent pas du monde de la formation et qui arrivent à avoir très vite de l'impact parce que au début, ils connaissent pas toutes ces règles et toutes ces normes, et donc ils commencent par vraiment créer de la valeur, et ensuite, ils font en sorte que ça rentre dans les cases d'un organisme de formation.
Ouais, plutôt que l'inverse, ok. Ça me fait pas mal penser aux établissements du supérieur. Maintenant, on voit les écoles de commerce d'ingé qui ont besoin d'avoir les accréditations, tu vois, ASCSB, ce genre de choses, et qui vont privilégier investir dans des locaux pour avoir l'accréditation plutôt que dans la pédagogie pour améliorer la qualité des formations. Je pense que le problème est un peu partout dans le monde de la formation. Ouais. Mais en même temps, il faut quand même un petit peu de cadre aussi pour éviter les dérives du CPF, par exemple, parce qu'on a pu voir
oui,
que...
Oui, c'est pour ça que je dis que tout n'est pas à jeter. Mais hélas, c'est au détriment de la pédagogie trop souvent, parce que c'est dur de faire les deux à la fois, sauf si tu as énormément de fonds à disposition et que tu peux recruter des équipes dédiées à ça.
Oui. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait un référentiel adapté à la taille de l'organisme aussi, effectivement. Et j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ce que tu as évoqué, qui est la culture, mais aussi donner des feedbacks. Comment tu donnes des feedbacks en interne et en externe ? Comment tu donnes des feedbacks, notamment à ces intervenants qui ne sont pas véritablement dans l'entreprise en tant qu'employé, à proprement dit ?
Il y a deux moments où on peut leur donner des feedbacks. Il y a au moment où on les rencontre et au moment où on les forme, entre guillemets, sur les évolutions de notre produit et de notre manière de former, puisqu'ils vont être confrontés à Maintenant, on va changer. Je vais te donner un exemple très concret. Au-delà du recrutement, où évidemment, on leur fait déjà des feedbacks pendant la phase de... On leur fait faire des tests, et ils sont surpris parce que ça n'arrive pas souvent, mais on leur dit que c'est comme ça qu'on fonctionne, et en général, ils aiment bien. Il y a aussi la... Nous, on a eu une grosse période où on a fait évoluer nos classes virtuelles. Après le Covid, tout le monde s'est mis à faire des classes virtuelles, et donc on s'est dit, il faut qu'on garde une longueur d'avance, et il faut que nos classes virtuelles, elles soient encore plus impactantes qu'avant, qu'elles donnent encore plus de place à la mise en pratique, et que ce ne soit pas des répétitions de choses théoriques qui ont été vues déjà dans les ressources et sur la plateforme de formation. Pour faire ça, il y a la phase de formation, et ensuite, nous, on assume qu'on va auditer ce qu'ils font, et qu'on va aller regarder les premières classes virtuelles qu'ils donnent aux apprenants, pour ensuite leur faire des retours. Et pour que ça marche, il faut un cadre de pourquoi on fait ces feedbacks, parce que en fait, les formateurs, s'il y en a qui nous écoutent, alors s'il y en a qui ont l'habitude contraire, je suis preneur que vous me donniez vos exemples, mais souvent, ils ne sont pas habitués à avoir des feedbacks. Ils bossent avec plein d'organismes de formation, et tant qu'il y a des bons bilans de satisfaction, on continue. C'est très rare qu'ils aient des feedbacks sur le fond de ce qu'ils font. Je vais te donner un exemple très concret. Nous, on a fait un feedback à un formateur qui est assez connu dans la conduite et la gestion de réunions. Et il commençait ses introductions pratiques par posez votre téléphone et mettez-le en mode avion. Nous, on lui a fait un feedback pour... là, on parle vraiment à des débutants. Si on a des personnes qui sont déjà aguerries à la gestion de réunions, on ne va pas commencer par leur dire ça. C'est hyper infantilisant. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ce retour, et c'était très direct, mais tu vois, c'était pas malveillant, c'est de dire, nous, ça nous surprend, c'est pas ça qu'on veut dans la formation, ça, ça nous paraît trop évident pour que tu puisses créer de la valeur là-dessus. Et aujourd'hui, je dis pas qu'il ne le dit plus, mais il ne le dit plus de la même manière comme si c'était une consigne venant d'un sachant. C'est plus un rappel de, on est dans les bonnes conditions de concentration.
Il serait peut-être bien d'avoir ça.
On n'oublie pas, c'est la petite checklist, mais vous le savez tous. Et du coup, il ne dit plus de la même manière. Donc, on l'a fait progresser, il nous en est reconnaissant. Pour répondre à ta question sur quelques exemples concrets. Est-ce que, tu ne me l'as pas posé, mais je vais la poser parce que la réponse, elle n'est pas simple.
Vas-y.
Est-ce qu'on fait assez de feedback à nos intervenants? Non, on a 150 experts formateurs. On a un peu plus d'une centaine de programmes de formation pour une équipe de 40 personnes. On ne peut pas leur faire suffisamment de feedback. Il y en a qui nous les demandent, là, on les fait. Et sinon, le reste, on sait que les apprenants vont les faire. Et après, on se fait guider par notre manière d'évaluer la formation pour pouvoir identifier quand il y a des choses qui se passent bien et aller cibler le temps qu'on passe à regarder ce qu'ils font et à faire des feedbacks.
Oui, tu vas peut-être appuyer sur les extrêmes, là où c'est très très bien, peut-être regarder un petit peu ce qui se fait pour le répliquer, et puis là où c'est très mauvais pour
donner. Exactement, ce qu'on peut se permettre de faire, parce qu'on va chercher des formateurs qui ont beaucoup d'expérience. S'il y avait des formateurs juniors, ça ne marcherait pas cette manière de faire. Mais aujourd'hui, je ne serais jamais satisfait à 100%, mais on est plutôt satisfait. Évidemment, on pourrait encore mieux faire pour les faire progresser eux aussi.
Ok. Alors, tu me disais qu'il fallait que vous ayez un temps d'avance sur les formations à distance, notamment. Comment vous avez pris ce temps d'avance concrètement? C'est quoi? C'est juste par la formation, juste entre guillemets, des formateurs? Ou est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez? Est-ce que vous avez des formats particuliers? Quelles sont les petites astuces générales que vous pouvez avoir?
Alors, il y a...
Sans donner la sauce secrète complètement.
Mais c'est public. On est aussi transparent, très transparent en externe sur ce qu'on fait. Donc, j'ai aucun souci à répondre à cette question. Il y a trois éléments principaux. Le premier, c'est effectivement les formats. En fait, vu que la formation à distance, c'est sans devenir majoritaire, c'est généralisé. Les attentes des entreprises vis-à-vis de la formation à distance, elles ont évolué. Ils voulaient plus de synchrone, parfois des formats plus courts que ce qu'on proposait. Même
les entreprises vous demandaient plus de synchrone, hein, ça je suis...
Ouais. Clairement. En fait, la majorité des organismes présentiels ont fait du 100% synchrone du jour au lendemain. Et le 100% synchrone, on décroche plus difficilement quand on est un apprenant qui découvre la formation à distance que quand on a beaucoup d'auto-formation. Donc les entreprises nous ont dit, nous on vous fait confiance sur l'impact, mais on veut quand même plus de synchrone pour être sûr que les personnes soient un peu plus engagées, parce qu'il y en a plein, soit elles ont été déçues de leurs premières expériences de formation à distance, soit c'est leur première expérience de formation à distance. Et donc avant de leur faire confiance sur leur autonomie à se former, on veut quand même les mettre dans un endroit plutôt sécurisé et plutôt humain, parce que quand tu fais du synchrone, tu vois les autres personnes qui sont en train d'apprendre et tu es en lien direct avec le formateur ou avec le prof si tu formes des étudiants. Donc on a mis plus de synchrone et plus de mise en pratique. Ça, c'était juste le coup de pied qu'il nous fallait pour aller au bout de notre conviction, qui est qu'en fait, dans la formation professionnelle, il faut très, très, très peu de théorie. Il faut commencer comme quand tu apprends à conduire. On te met directement devant le volant et on ne t'explique pas pendant 2 heures comment ça va se passer dans le moteur quand tu vas changer de vitesse. Si on fait ça, on t'a perdu. Et bah, on considère que la formation professionnelle, ça doit être la même chose, mais la force de l'habitude fait qu'on gardait quand même un bon ratio de théorie pour être sûr d'aborder tous les sujets. En fait, dans les faits, c'est l'inverse. C'est une fois que tu as fait mettre en pratique que les gens peuvent s'intéresser à la théorie et que si tu leur mets à disposition, ils vont aller la consulter plutôt que de forcer à la théorie dans des formats descendants ou à distance, tu peux passer à la page suivante, tu peux mettre en accéléré la vidéo, tu peux ne pas l'écouter. En fait, et c'est ce que font la majorité des apprenants, parce que ça se mesure. Donc, il y a les formats, la mise en pratique et la place de l'accompagnement. C'est lié un peu à la mise en pratique, mais la place de l'humain et du synchrone, c'est pas pour répéter des choses qu'on a déjà vues ou pour donner des informations descendantes, c'est vraiment pour aller au cœur de la mise en pratique, même d'un deuxième niveau, et surtout pour dire mais comment ça s'est passé en situation de travail. Parce que vu que nous, nos formations, elles durent en moyenne 12 heures et elles sont étalées sur 4 semaines, ce qui présente l'avantage d'avoir des personnes, dès lors qu'elles sont en poste, ce qui est la majorité de nos apprenants, qui peuvent tester ce qu'elles ont appris en situation de travail et une fois sur deux, ça se passe pas comme prévu. Et avant, les formateurs passaient beaucoup de temps à corriger les exercices qu'on prévoyait, mais pas assez de temps à dire, au fait, comment ça s'est passé? Si ça s'est bien passé, c'est quoi que tu peux apprendre aux autres? Et si ça s'est pas bien passé, comment on peut t'aider pour que quand tu vas re-animer ta réunion, re-gérer le nouvel outil IA qui impacte ton métier, re-gérer ton équipe parce que tu es manager, c'est quoi que tu vas devoir faire différemment par rapport à ce qu'on avait vu dans la formation pour que ça marche dans ton contexte à toi. Donc ça, c'est les trois leviers principaux où on s'est dit, si on va plus loin là-dessus, on aura plus d'impact et on répondra plus aux attentes de nos clients. Alors, est-ce que ça nous donne une énorme longueur d'avance? Il y en a qui le font très bien sur certains de ces leviers. On n'est pas du tout les seuls à les actionner, mais on pense que ça nous permet de garder de l'avance sur la qualité globale et surtout sur la complétion de la formation. Puisque là, on est en moyenne... J'ai pas le chiffre précis, mais on est toujours autour de 90% de personnes qui vont jusqu'au bout d'une formation à distance. Et on pense que c'est l'un des éléments qui traduisent le fait que les apprenants se retrouvent dans la pédagogie qu'on leur propose avec cet accompagnement ou autre. Sinon, ils ferment la fenêtre et il n'y a plus lieu d'eau et nous, on les a perdus.
Ouais, alors pour mettre un petit peu en perspective ce chiffre, si on met quelqu'un en... Alors, j'ai pas les données là maintenant tout de suite mises à jour, hein, mais je sais que sur les MOOC, par exemple de Coursera ou Udemy, ce genre de choses, taux de complétion, c'est plutôt l'inverse. Ça va plutôt être 90% qui ne vont pas au bout, parce que justement, c'est synchrone, donc je suis pas tellement surpris de ta réponse, mais c'est intéressant de savoir que les entreprises même viennent par elles-mêmes te le demander, et que c'est pas juste quelque chose que vous proposer puisque vous êtes expert là-dessus, donc c'est tellement flagrant finalement que ils en reviennent aussi. Et t'as mentionné l'IA, est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose que vous mettez ou prévoyez de mettre dans les formations ou même de ton point de vue en RH, parce que il y a différents cas d'usage forcément de l'IA. On pourrait parler par exemple du recrutement, il y a par rapport à de l'analyse de questionnaires de personnes, il y a plein de choses possibles. Est-ce que tu t'y es un petit peu intéressé?
Oui, alors attention, si tu me lances sur l'IA, on va plus pouvoir parler d'autres choses, donc il faudra cibler les questions.
En fait, on s'y est... un autre sujet après qui m'intéresse. Mais donc tu peux y aller, tu as 10 minutes là-dessus.
Ok, non, mais je vais faire court, parce qu'en fait, il y a plein de manières dont l'IA nous impacte chez Youno. En gros, on avait entendu parler du sujet quand ChatGPT est sorti, mais on avait tellement entendu de bullshit autour de l'IA et de la formation qu'on s'est pas plongé de suite dedans, parce que, en fait, le nombre de fois où on nous a dit, ouais, l'IA va avoir des vrais impacts dans des formations courtes et où c'était, du marketing ou des personnes qui étaient convaincues, mais en fait, c'était pas vraiment de l'IA, c'était des algorithmes assez simples, qu'on s'est pas de suite jeté dessus. Et puis, 2 mois, 3 mois après, ça commençait à changer la manière de travailler des gens. Et là, on s'est dit, si ça a un vrai impact sur le travail, c'est sûr que ça va avoir déjà un impact sur notre travail à nous et un impact sur la manière dont on développe les compétences puisqu'elles seront impactées par l'IA. Et donc là, on a fait l'inverse. On s'est mis à fond dessus. On s'est mis à fond dessus d'abord d'un point de vue conception pédagogique pour se dire, qu'est-ce que ça va changer? On visait pas de remplacer nos ingénieurs pédagogiques ou notre équipe conception, mais de se dire comment on fait mieux avec l'équipe actuelle et avec l'IA. Et un chiffre qui a probablement augmenté depuis, mais on n'a plus d'intérêt à le mesurer. Mais sur le coup, quand on s'est lancé, donc c'était en mars 2023, avec l'IA telle qu'elle était à l'époque, on a augmenté notre productivité à concevoir une formation de 50%. Donc, en fait, on divisait le temps par deux pour concevoir une formation.
Alors, sur quoi vous avez gagné beaucoup de temps ?
Chaque étape. La première étape qui est la plongée sur un sujet, où avant on faisait notre veille pendant un moment, bah là tu peux demander à l'IA de te vulgariser un concept,
tout un truc,
de t'orienter sur la veille, donc tu gagnes énormément de temps. Pas totalement, parce que tout n'est pas fiable, donc tu dois aussi vérifier les choses par toi-même, mais au global, même en vérifiant, tu as gagné beaucoup de temps. Ensuite, pour créer un scénario pédagogique, bah, ça te propose 20 versions possibles et toi, tu vas prendre ce qui t'intéresse. Pour créer des objectifs pédagogiques, même quand tu sais le faire, bah, en fait, des fois, c'est fastidieux ou t'en as marre, ou des fois, tu oublies, tu plafonnes parce que tu penses pas à telle compétence, à tel verbe, à telle manière de le formaliser. Et bah, tu peux demander à générer des tableaux avec la taxonomie de Bloom, avec tout un tas de choses, donc c'est à volonté. Et puis après, bah, pour générer des ressources et notamment les activités pratiques, bon bah là, c'est une banque infinie de... Des fois, on s'autorise à avoir nous-mêmes la créativité, mais quand t'as pas le temps, bah, tu l'as fait générer par l'IA et tu prends ce qui te plaît, tu le réadaptes. Donc vraiment, à toutes les étapes, nous, on s'est arrêté à l'étape de, aux étapes que j'ai décrites, on ne crée pas de vidéo où t'as un avatar qui parle avec une voix d'IA et qu'on traduit dans toutes les langues du monde, parce que bah, déjà, on fait beaucoup de synchrone, mais surtout pour les ressources, on garde ce côté humain qu'on n'a pas besoin de passer à l'échelle avec de l'IA. Peut-être que dans un ou deux ans, on fera différemment, mais c'est là que ça nous a permis de gagner 50%. Ensuite, sur l'IA, ça peut aussi avoir de l'impact sur l'expérience de formation, mais on pense que c'est un peu tôt, donc on n'a pas changé notre expérience de formation. On s'est plus dit, le premier besoin côté entreprise du fait de l'impact de l'IA, c'est d'aider les personnes à travailler à l'ère de l'IA. Donc, comprendre les risques, les bonnes pratiques, les différents outils, et comment être RH à l'ère de l'IA, manager à l'ère de l'IA. Donc en fait, l'impact que ça a eu chez Youno, contrairement à ce que, si j'avais dû prédire, j'aurais prédit l'inverse, c'est sur nos thématiques de formation et non pas sur l'expérience de formation. Parce qu'en fait, l'expérience de formation, on peut toujours mieux faire, mais on est assez satisfait de l'impact qu'elle a en termes de développement des compétences. Donc on a développé une gamme IA et on a plein de demandes entrantes, un peu comme au début du Covid quand les organismes de formation présentielle avaient fermé, parce que bah, y a d'énormes besoins. Et on n'est pas les seuls à le faire, mais il y a d'énormes besoins, donc il y a d'énormes demandes, donc on s'est mis là-dessus. Et sur l'expérience, bah, il va y avoir plein de choses à faire, mais ce n'est pas simple. Il y en a qui ont commencé à s'y mettre, mais en fait, d'un point de vue expérience de formation, on peut discuter à volonté avec un sachant dont on a paramétré les critères. On peut avoir des corrections, on parlait tout à l'heure de feedback, des feedbacks et des challenges. Moi, je m'en sers à titre personnel. C'est extrêmement puissant. Ce n'est pas l'équivalent d'un coach. Ça a d'autres avantages et d'autres inconvénients, mais je les mettrais quand même presque au même niveau, parce que bah, en fait, c'est une personne qui est disponible à toute heure et à volonté, et quand le feedback il n'est pas approprié, bah, il faut juste demander de le reformuler, on peut avoir énormément de choses, et puis on peut personnaliser à l'extrême. Si moi je suis RH aujourd'hui et que dans ma formation je veux qu'on adapte au secteur de la formation les enjeux pour une équipe de 40 personnes, d'un professionnel des ressources humaines qui en plus a déjà beaucoup digitalisé les RH et veut utiliser l'IA pour augmenter la performance de ce qu'il fait et gagner du temps pour passer plus de temps avec l'humain, tout ça, dans une formation normale, quasiment impossible à trouver, ou alors ça va me coûter extrêmement cher. Mais avec l'IA, je peux personnaliser des contenus et des activités par rapport à ces critères que je viens de définir, et ça marche pour la plupart des métiers, la plupart des compétences. Donc en termes de personnalisation, là on va pouvoir enfin il y en a certains qui disaient industrialiser l'individualisation de la formation, et en fait c'était surtout des belles paroles, mais c'était impossible à faire. Là ça devient possible. Je suis curieux de savoir qui seront les premiers qui le feront vraiment bien, parce que ça reste complexe, et dès que c'est compliqué l'expérience de formation, on perd les apprenants. Donc ça va être un sacré challenge.
Ah, et puis il y a une difficulté aussi à mesurer l'impact une fois que la formation est personnalisée. Si tout le monde reçoit la même la même RIC. On va pouvoir peut-être mesurer aussi la même RIC. Si chacun reçoit un petit contenu un peu différent, comment est-ce qu'on va mesurer tout ça? Donc il y a des challenges, en tout cas, c'est sûr. Et c'est vrai que dès que, par exemple, si on doit apprendre, je sais pas, de la physique nucléaire, peut-être que ChatGPT va être un peu léger. Quoique, peut-être pas, tu me diras, mais il y a certainement des sujets où ça va être un petit peu léger. Alors je suis juste curieux de savoir, est-ce que vous encouragez l'usage de ChatGPT ou d'autres IA dans la classe lorsque les apprenants sont en formation, en plus d'avoir le formateur à côté qui peut répondre aux questions? Ou est-ce que vous le mettez un peu de côté? Non, ça c'est un temps avec le formateur.
Alors on encourage clairement. En fait, on s'est très vite positionné à l'opposé de ceux qui ont dit il faut interdire soit pour se former, soit pour passer les examens qui permettent d'obtenir les certifications. Pour nous, c'est absurde. Alors c'est pas de moi, mais je me rappelle plus de qui c'est. Il y avait quelqu'un qui avait fait un très bon parallèle avec les calculatrices, de dire en fait aujourd'hui on n'interdit pas aux mathématiciens d'utiliser des calculatrices. Et ben on considère que c'est la même chose. L'IA c'est une aide dont on va disposer. Et donc, on encourage proactivement selon les sujets, parce qu'il y a des sujets où ça n'a pas une finalité directe, y compris pendant la formation, et même si ça aide à répondre à des quiz. En fait, pour nous, contrairement au secteur académique, on considère que c'est pas tricher que de se donner les bons moyens d'obtenir les bonnes réponses à une certification, à une formation, puisque le but, c'est d'apprendre. Alors, peut-être que si on le fait trop, il y en a qui vont se dire « Ah, mais ça va moins... » on va moins mémoriser parce qu'en fait, on connaissait pas la réponse, on allait chercher l'info, on a rempli le questionnaire. Moi, je pense que c'est l'inverse. Il faudrait lui donner un nom à cet effet. C'est l'effet de, pour celles et ceux qui étaient tricheurs à l'école comme moi, quand on fait des pompes et qu'on écrit les trucs la veille sur un petit bout de papier, souvent on est surpris parce qu'en fait, on n'a pas besoin de l'utiliser parce qu'on s'en rappelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait la démarche d'aller chercher une information, de l'écrire quelque part ou de la mettre à un endroit en se disant, j'ai un enjeu à savoir ça. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais pour moi, quand on va dans une IA chercher une information, en fait, on est obligé de poser quelques questions, et donc on fait la démarche intellectuelle qui fait qu'on a plus de chances de mémoriser la réponse que si sans chercher, on se dit « bon, bah là, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, je fais au pif, j'ai un indice et je passe à la question suivante. » Sauf que y a des croyances liées, je pense, à notre historique du secteur académique, qu'il faut faire peur, il faut qu'il y ait de la sanction pour que les gens mémorisent les choses. Moi, je pense, et d'ailleurs, la science a prouvé que c'est faux. C'est plus le plaisir qui crée et qui ancre des connaissances et des compétences que la peur.
Je suis tout à fait d'accord. Alors, avant qu'on passe aux questions de la fin, j'aimerais te parler un tout petit peu, enfin, que tu me parles plutôt de IDEA Pact. Alors, je ne sais pas si on dit IDEA ou IDEA.
IDEA Pact.
Tu vois, je t'ai dit très fort. IDEA Pact. Et donc, j'aimerais que tu me dises un petit peu ce que c'est et que tu fasses, tu partages.
Trop bien. Alors, merci beaucoup de me poser cette question. L'ID Pact, c'est un collectif qui n'a pas de statut, c'est pas une association, c'est pas payant, c'est juste des RH à la base qui se sont regroupés pour partager des bonnes pratiques en se disant aujourd'hui, les entreprises sont trop peu diverses et inclusives, souvent parce qu'elles savent pas par où commencer et souvent parce que leurs dirigeants ignorent à quel point ça va servir la performance et l'épanouissement. C'est pas juste pour des raisons humanistes, c'est aussi pour des raisons de performance d'entreprise. Et on s'est dit, en fait, il y en a plein qui ont essayé via des chartes, via des sensibilisations, et ça prend pas assez vite. Il y a encore énormément d'injustices et d'inéquités dans les entreprises. Et on va prendre une approche autre, et on va passer, comme dans la formation, par la pratique, et on va juste faire un collectif où les gens s'engagent à avoir des actions concrètes, évidemment qu'on peut leur suggérer, en faveur de la diversité et de l'inclusion dans leur entreprise, et de rejoindre un collectif où on fait, sans jugement, on fait que se partager nos problématiques et dire « tiens, moi, face à telle ou telle situation, pour renforcer mon taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap, voilà ce que j'ai fait, ou voilà ce que je suis allé sourcer en termes de recrutement. » Pour avoir moins d'inégalités salariales entre les hommes et les femmes, qui est l'un des plus gros sujets, chaque fois les enquêtes, chaque année sortent, c'est quand même aberrant qu'on en soit encore là alors qu'on connaît le problème depuis 20 ans. Voilà ce que j'ai fait. Il y en a qui font des grilles de rémunération, il y en a qui les objectifs, il y en a qui passent par des prestataires externes. Peu importe, parce que c'est rare qu'il y ait une solution commune à tout le monde. Et donc, l'ID Pact, c'est ça. C'est je veux être meilleur sans atteindre tel ou tel cap en matière de diversité et d'inclusion dans mon entreprise, qu'on soit un organisme de formation, une association, une entreprise, peu importe. Je prends des engagements et je les prends publiquement en disant je rejoins le collectif, parce que prendre des engagements publiquement, ça aide à vraiment avancer. C'est un peu la preuve sociale. Et ensuite, je rejoins un collectif de personnes qui vont s'entraider de manière bienveillante. Et donc là, à date, Je crois qu'on est 200 entreprises dans le collectif. On avait eu le parrainage du secrétaire d'État au numérique et on continue de relayer même des choses qui sont proposées par d'autres, vu qu'on n'a aucun enjeu économique ou quoi que ce soit. Quand on voit des bonnes initiatives d'autres collectifs comme ça, ben on les relaie tout simplement. Vous pouvez notamment suivre la page IT Pact sur LinkedIn si vous vous intéressez au sujet de la diversité et de l'inclusion.
Génial. Et alors, on va peut-être pas faire toute une liste, du coup, là, aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais si tu avais un conseil, un sujet pour débuter, d'aller un peu plus vers d'inclusion, d'impact, qu'est-ce que tu conseillerais ?
Si on s'adresse à des RH, mon premier conseil, c'est d'interpeller la direction pour leur dire, s'il y a bien l'un des sujets où il n'y a pas une seule étude au monde qui a pas démontré que les équipes, elles étaient plus performantes, épanouies et créatives, ce qui sont trois critères sur lesquels normalement misent les entreprises. Et donc de dire, est-ce que vous me laissez un peu le champ libre pour que là-dessus, on se contente pas du minimum ou du statu quo, mais qu'on soit vraiment proactif. Ça, c'est ce que je conseillerais aux RH. Et si vous n'êtes pas RH et que vous écoutez ce podcast, d'aller interpeller vos RH. En leur demandant comment ça se fait que ce soit pas un sujet aussi important qu'il ne devrait l'être pour attirer leur attention là-dessus.
Ok, super. Bon, et je plaide coupable, chez Ducène, on a toujours eu du mal avec trois fondateurs, de commencer tout de suite à être parfaitement équitable, mais on essaie petit à petit de recruter un peu plus, donc pourquoi pas.
Ouais, mais l'entreprise parfaite n'existe pas, et tu vois, les deux fondateurs de Luno, c'est des hommes, je les ai rejoints juste après, je suis un homme aussi, et ça doit pas empêcher de faire des choses.
Exactement. Ok, écoute, merci sur ces belles paroles. Je te propose qu'on passe aux questions de la fin avec donc la plus grande qui est la formation dans 10 ans. Pour toi, c'est quoi ?
Ah ouais, alors elle est dure cette question. Pour moi, pour faire une réponse courte, je pense que on peut déjà sentir que les contenus présents, éducatifs et accessibles à tout le monde gratuitement aujourd'hui, il y en a énormément. Avec l'IA, je pense qu'il va y en avoir encore plus. Et en plus, avec l'IA, soi-même, on peut aller se faire former par une IA sur la plupart des sujets. Donc, ce qui fait que demain, des gens vont aller prendre du temps et dépenser de l'argent pour aller en formation, c'est plus l'accès au savoir. C'est la sélection des meilleurs savoirs, peut-être, et encore, parce que ça, l'IA peut le faire à la place d'un formateur. Mais ce qui changera probablement jamais, malgré l'accès à la connaissance infinie, c'est l'accompagnement individuel qu'on peut avoir. Donc la capacité d'avoir un être humain qui nous donne des feedbacks sur notre situation personnalisée, le fait d'être avec d'autres personnes qui apprennent aussi, et ça c'est une dimension sociale et de plaisir, et puis le fait d'avoir un suivi de mise en pratique. Donc je pense que la formation dans 10 ans, c'est une formation dans laquelle il y a toujours de l'accompagnement individuel, que ce soit en présentiel ou à distance, dans laquelle on est dans un groupe, sinon on a moins de chances d'aller au bout, et où on nous fait mettre en pratique, sinon autant aller sur Internet consulter des contenus tout seul. Et évidemment, je pense qu'il y aura de l'IA dans certains sujets pour générer et personnaliser des univers virtuels, parce que le jeu vidéo a déjà montré en 2024, là c'est déjà possible, donc je vois pas pourquoi pour tous les sujets pour lesquels il faudrait la réalité virtuelle, ça allait pas se transposer à la formation. Et puis, un dernier point, je pense que la formation, elle sera un peu mieux évaluée, parce que... elle est très mal évaluée. Globalement, les services formation, les dirigeants des entreprises ont l'air... Je pense qu'ils s'en fichent un peu, au fond. On va se dire vraiment les choses. Sauf que au fur et à mesure qu'il commence à y avoir des bonnes démarches dont on mesure l'impact, et vu que le savoir sera encore plus accessible dans 10 ans, si on n'est pas capable de démontrer pourquoi il faut aller passer du temps et dépenser de l'argent pour mettre des personnes en situation de formation... ce sera plus difficile, et donc c'est plus un espoir qu'une prédiction, qui aura un peu plus d'évaluation de l'impact concret des formations.
On peut espérer, il y a plein d'outils dans ce sens, donc on espère que ce sera le cas effectivement. Ok, est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu suis particulièrement dans l'univers de la formation ?
Alors, une personne que je suis particulièrement, c'est un ancien collègue qui s'appelle Johan Vidalinck, qui partage énormément sur beaucoup de sujets de la formation, mais notamment la pédagogie, les financements et la réglementation. Et il le fait aussi avec des dessins. Donc en termes de pédagogie, c'est l'une de mes sources principales. Et puis j'adore ce qu'il fait.
Super, et qui est passé dans le podcast. Alors j'essaie de retrouver le.
Ah, j'avais pas vu. J'ai regardé
l'épisode, mais Mais je retrouve pas le numéro de l'épisode là comme ça, mais en tout cas, vous pourrez regarder, ça sera probablement dans la description de cet épisode.
Ah bah ça doit être un... Bah du coup, je vais aller écouter son épisode parce que j'ai manqué ça.
Et ok, super. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes, que tu as envie de partager?
Alors je vais pas être très original, mais c'est l'outil qui me sert le plus depuis un an, c'est ChatGPT. J'ai la version 4 hein, qui coûte pas très cher, donc il y a la version payante, et en fait ça change tout, même dans mon quotidien perso je l'utilise pour certains sujets pour gagner du temps, donc je peux pas recommander autre chose aujourd'hui.
Super. Et est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet?
Alors sur la table de chevet, j'ai des BD parce que je ne lis pas, je laisse mon cerveau se reposer, mais l'un des livres que j'utilise le plus, alors que j'ai même pas fini, on a parlé du feedback plusieurs fois, c'est l'art du c'est Feedback, le pouvoir des conversations de Stéphane Moriou, parce qu'en fait c'est la base de tellement de choses pour apprendre, pour le relationnel, pour c'est une mine infinie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire se dire les choses dans un contexte pro ou perso. Et en fait, je ne l'ai pas fini parce que je relis certains passages. À chaque fois, je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté d'un sujet aussi, aussi important? Son bouquin a l'air d'être un succès, donc je ne dois pas être le seul, mais c'est celui-là en ce moment, pour moi.
Super. Et enfin, où est-ce qu'on peut te trouver? Digitalement, plutôt, encore une fois.
Bah, surtout sur LinkedIn. La quasi-totalité de ce que je partage, c'est sur LinkedIn. Je crois que j'ai 32 ou 33 000 personnes qui me suivent, justement. Je partage sous tous les formats vidéo, bah, podcast. Évidemment, je partagerai cet épisode-là. Donc, vous tapez Pierre Monclos sur LinkedIn et normalement, vous devriez me trouver.
Super. Donc, Monclos, M-O-N-C-L-O-S, pour ceux qui cherchent directement. Bien, écoute, Pierre, merci beaucoup d'être passé dans l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast?
Alors déjà merci à toi Elliot pour l'invitation et pour qu'on ait pu parler de ces sujets en partie d'actualité. Et mon dernier mot, pour celles et ceux qui se disent oh l'IA ça a l'air compliqué ou c'est un peu tôt, j'ai rencontré des personnes qui ne maîtrisent pas des outils de base sur ordinateur et qui ont réussi à faire des trucs incroyables avec l'IA, donc il y a des choses à faire, intéressez-vous-y, peu importe la manière dont vous prenez le sujet. Mais que ça soit par passion ou avec un objectif précis, c'est la bonne période pour se plonger dans ce monde merveilleux. Mais faites attention, on ne fait pas n'importe quoi avec l'IA.
Super. Et vu que tu ne fais pas l'autopromo, je vais la faire pour toi. Donc Pierre, tu as aussi sorti un livre qui s'appelle « Quand les startups et scale-up licornes réinventent les RH ». Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes passionné par les RH, n'hésitez pas à aller l'acheter donc aux éditions Dunode. Et on peut le retrouver sur ton LinkedIn au passage. Il y a le lien pour ceux qui cherchent directement de faire d'une pierre deux coups. Et j'ai retrouvé l'épisode, donc c'est le numéro 56 avec Johan Vidalenk. Alors je ne sais jamais comment.
Johan Vidalenk.
Merci. Je fais mieux que moi. Je suis très nul sur la prononciation apparemment aujourd'hui. Mais je te laisse là-dessus. C'est moi qui te remercie et je te souhaite une très belle formation. Et à bientôt, Pierre.
À bientôt tout le monde. À bientôt, Elliot.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.